BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, nous dit « En plus d'éléments rationnels, les individus se déterminent en fonction de leur mémoire souvent courte et de leurs émotions. » Question du jour, les marchés financiers ne sont-ils qu'irrationnels, voire émotionnels? Qu'est-ce qui fait marcher un boursier? Alors Marjorie Paillon, les bourses s'affolent en ce moment, en tout cas le Dow Jones se porte bien, pourtant les crises s'enchaînent et les effets de bulle se multiplient. Alors est-ce que les marchés seraient devenus fous, Marjorie?
Je ne sais pas s'ils sont devenus fous, je ne sais même pas s'ils ont une âme, en tout cas il semblerait bien qu'ils aient des humeurs. C'est en tout cas l'analyse de la crise des subprimes qui est en train de monter dans le monde de la finance. Alan Greenspan himself déclare cette semaine que cette crise financière de l'été est un accident qui devait arriver. Et si ce n'avait pas été les subprimes, eh bien la crise aurait fait éruption par un autre secteur. L'oracle de Wall Street avait déjà parlé de l'irrationalité des marchés en 2000 pour prévenir les effets de la bulle Internet. Mais les marchés ne semblent pas avoir de mémoire. Le site communautaire du moment, Facebook, vient d'être valorisé à 15 milliards de dollars depuis que Microsoft est rentré dans la danse. La société de Bill Gates vient d'acquérir un peu moins de 2% de Facebook. Et les bourses étrangères, eh bien, ne sont pas en reste. Hein. Warren Buffett, le milliardaire américain, met en garde cette semaine contre la survalorisation de la bourse et des bourses chinoises. Il déclare dans le Financial Times qu'il est sur le point de se désengager même de ses fonds chinois. Bref, les marchés s'affolent, dévoilant peu à peu leur irrationalité. La vraie réalité irréaliste de Franz Kafka n'est pas loin.
Voilà, Marjorie Paillon. Donc, pour en parler avec nous aujourd'hui, Tammy Cabbage, bonjour.
Bonjour.
Bien devant le micro, oui, voilà.
Bonjour.
Vous êtes économiste, ancien trader, vous avez publié La psychologie des grands traders et puis L'art du trading aux éditions d'organisation tout récemment. Olivier Gottschaux est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, auteur des Traders, la découverte, c'était en 2001, et de Working Rich, qui vient de sortir, toujours à la découverte. Et Christian Schmitt avec nous, professeur d'économie à Dauphine. Bonjour Christian Schmitt.
Bonjour.
Toujours pareil, bien devant le micro, sinon personne malheureusement ne vous entend. Alors, je vais vous faire le petit tableau qui m'a incité à organiser ce débat aujourd'hui. Voilà pourquoi je me suis posé cette question. On a un pétrole qui est hors de prix, on est au-delà des niveaux des chocs pétroliers des années 70, une économie américaine au tapis, un dollar qui n'en finit plus de glisser, des matières premières qui flambent, une Chine en surchauffe, un marché du crédit qui est laminé, des banques qui vacillent, enfin Merrill Lynch qui nous dit qu'aujourd'hui il y a 8 milliards d'actifs qui sont surestimés, des déséquilibres commerciaux historiques. Et on a Dow Jones qui est à des niveaux records, comme si il y avait une déconnexion entre l'économie et les marchés. Pourquoi aujourd'hui le Dow Jones est à des sommets pareils avec le contexte que j'ai pu décrire à l'instant? Qui veut commencer? Tammy Cabbage.
Bonjour. Donc effectivement, le Dow Jones est à des niveaux que l'on estime pour certains comme étant surévalués, mais dans les faits, il faut savoir qu'effectivement l'économie est dominée par ce que l'on appelle une convention, c'est-à-dire
la convention qui domine l'économie.
Tout à fait. C'est-à-dire que lors de la prise de décision, les investisseurs vont se baser sur une convention dominante. C'est-à-dire que si tout le monde pense que la valorisation est bonne, ils vont se positionner par rapport à cette convention dominante. Donc le but d'un investisseur est finalement de déceler quel est le sentiment dominant et de prendre une position en se basant finalement sur ce consensus
dominant.
Donc
c'est d'être très psychologue en fait. L'investisseur doit être avant tout très psychologue pour savoir ce que pensent les autres et se positionner par rapport au sens commun finalement.
Tout à fait, c'est-à-dire que l'investisseur doit prendre en compte le point de vue des autres pour prendre une décision.
Christian Schmitt,
d'abord, c'est pas si nouveau que ça, parce que c'était la vieille idée du concours de beauté de Keynes qui est redécrit. Hein. Bon, dans lequel il y a un concours et il ne faut pas choisir le plus beau modèle, mais il faut choisir celui qui sera pensé comme le plus beau modèle. Bon. Donc c'est un retour d'une idée assez ancienne. Je voudrais d'abord un petit peu corriger votre tableau.
Oui, il était anxiogène.
Non, c'est pas ça. Il a deux choses. Effectivement, il y a une déconnexion du réel par rapport au financier. Ça, c'est vrai. En revanche, il y a tout de même, depuis quelque temps, une beaucoup plus forte volatilité. Il y a une période sans volatilité. Il y a un retour à la volatilité. Alors, ça prouve tout de même deux choses. Ça prouve qu'un, comme il a été dit, mais j'en redirai un petit peu autrement, en fait, les opérateurs vivent de croyances. Donc, ils ne vivent pas de réalité, ils vivent de croyances.
Il y a une religion des marchés.
Ils vivent de croyances. Et deuxièmement, et c'est ça la volatilité, la croyance peut se retourner assez vite.
On perd la foi très vite.
Oui, et on passe d'un extrême à l'autre. Et là, je parle dans des travaux plus récents. On a fait des travaux sur ce qui se passait dans les têtes, si j'ose dire, avec l'imagerie cérébrale, en simulant des situations, d'un certain nombre de, disons, d'opérateurs fictifs, hein, qui font des arbitrages. Eh bien, on observe que, très curieusement, comme ce sont des systèmes neuronaux différents, ils peuvent passer brutalement, quand ils ont été déçus, d'une anticipation optimiste à une anticipation pessimiste, et vice-versa. Donc, je dis, d'un côté, il y a ces croyances, et ces croyances permettent d'expliquer des sauts, effectivement, qui semblent un peu inexplicables autrement.
Alors, sur l'histoire du Dow Jones, Olivier Gauthier, vous êtes sociologue. On a l'impression, à la lecture de la presse au quotidien, qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de signaux qui sont à l'orange, voire au rouge. Mais voilà, les boursiers se disent, s'il y a un problème, Ben Bernanke va nous baisser les taux, ce sera bon pour les actions. Et en fait, il y a une espèce de pari sur une attente d'un assouplissement monétaire de la part de la Fed. Ce serait uniquement ça, la raison.
Moi, je n'ai pas tellement à commenter les
bien devant le micro.
En fait, la conjoncture la plus immédiate,
non, bien
sûr, c'est pas mon sujet.
Mais
je voudrais revenir
sujet,
un peu à la question qui nous réunit ici, c'est à savoir la rationalité ou l'irrationalité des marchés financiers. Et ce qui est un peu bizarre dans cette phrase, qui est une phrase omniprésente, c'est d'accoler à un attribut qu'en général est individuel à une entité collective. En général, qu'est-ce qui peut être rationnel ou irrationnel? C'est un individu. Et là, on parle de la rationalité d'une entité collective. Donc, en même temps, c'est récurrent. Donc, faut essayer de comprendre ce que ça peut vouloir dire, parce qu'il y a plusieurs questions derrière et qui sont connectées, mais les détailler, en faire une nomenclature, ça permet un petit peu de comprendre les débats sous-jacents. Donc, première question, c'est est-ce que les marchés financiers réalisent leur fonction ou celle qu'on leur attribue? Donc, est-ce qu'ils gèrent bien le risque? Est-ce qu'ils fabriquent des bons prix? Est-ce qu'ils permettent des transferts de titres peu coûteux? Et derrière, c'est une question de politique économique, voire une question politique. Est-ce que les marchés sont une entité bénéfique ou au contraire une entité nuisible? Bénéfiques, il faut les développer, les libérer, les déréguler. S'ils sont nuisibles, il faut les réguler, les limiter, voire même les supprimer. Donc, première question. Deuxième question, c'est les marchés présentent un certain nombre d'évolutions. Est-ce que ces évolutions sont compréhensibles? La crise des subprimes entraîne un décrochement des titres. Est-ce que cette crise correspond vraiment à la transformation de l'univers économique ou c'est une surréaction complètement incompréhensible? Troisième élément du côté de la rationalité collective, c'est est-ce que les marchés sont prévisibles? Donc ça, ce sont des questions macroéconomiques qui portent sur la rationalité de l'entité. Et derrière, il y a des questions vraiment prescriptives. Quelle place on accorde aux marchés financiers? Et aussi, il y a une question et qui est liée, c'est la question microéconomique. C'est est-ce que les individus qui peuplent ces entités sont eux-mêmes rationnels? Alors, est-ce qu'ils sont totalement irrationnels en proie à la passion du jeu, du lucre, comme on disait au XVIIe siècle, prêts à s'adonner à l'ajoutage? Est-ce qu'ils sont rationnels, mais comme vous et moi, c'est-à-dire
ils sont humains, ils sont humains et automatiquement...
Ils sont humains, ils discutent, ils justifient, ils argumentent, ils calculent. Est-ce qu'ils sont rationnels au sens d'une rationalité imparfaite, c'est-à-dire qu'ils estiment mal les très petites probabilités? Ou est-ce qu'ils sont rationnels, parfaitement rationnels, comme le suppose la théorie économique, c'est-à-dire ils maximisent leurs profits en utilisant toute l'information disponible avec une capacité d'optimisation infinie et avec le même modèle de la théorie économique? Et entre ces niveaux micro et macro, il y a toutes sortes de couplages. On peut avoir l'alignement néoclassique, individu rationnel, des marchés totalement imprévisibles, mais totalement compréhensibles, et une institution, les marchés, qui est entièrement bénéfique. Ou bien on peut avoir des modèles hétérodoxes où les individus sont rationnels, ils font des bulles spéculatives, mais une entité qui ne l'est pas. Ou bien le modèle des enchères, des individus qui ne sont pas très rationnels, mais grâce à des bons processus d'enchères, on a des marchés irrationnels. Et puis, irrationalité individuelle, irrationalité collective. Voilà.
Je suis déjà un peu, moi, ça devient un peu irrationnel pour moi, bon, le débat. Là, Christian Schmitt.
Bon, alors, je reprends. Je suis d'accord avec le point de vue. Le terme de rationalité doit être entendu à plusieurs niveaux. Mais soyons simples. Ce qu'on appelle un marché, les marchés rationnels, entre guillemets, c'est des marchés efficients. Bon, et il y a eu une théorie des marchés efficients, et cette théorie des marchés efficients a été discutée. Et on est parti de là en disant ils ne sont peut-être pas efficients au sens technique. Bon. Alors, voilà pour ce qui est de... Maintenant, si on descend un peu plus bas, les individus. Alors, un, ils ne sont jamais seuls, donc ils sont toujours stratégiques. Donc leur rationalité est nécessairement liée à ce que nous disions, c'est-à-dire qu'ils font une hypothèse sur ce que les autres opérateurs feront. Et là, joue quelque chose de très important, c'est les informations. Il y a des informations que certaines détiennent, que d'autres n'ont pas. Or, les trois prix Nobel qui ont été salués ont travaillé là-dessus, sur ces mécanismes d'information et qui peuvent fausser le marché. Alors enfin, si d'être rationnel, c'est d'être raisonneurs, tous les opérateurs raisonnent. Maintenant, ils ne raisonnent pas nécessairement comme le voudrait le modèle parfait de l'utilité espérée classique. Vous avez avec raison rapporté les idées du prix Nobel Kahneman, psychologue, prix Nobel...
2002, prix Nobel d'économie, oui.
Voilà. Ben, il y a des choses très intéressantes pour nous. Par exemple, on n'anticipe pas les gains comme on anticipe les pertes. On n'a pas la même attitude face aux gains que face aux pertes. Par exemple, on préfère des gains immédiats et quand c'est l'incertitude, on repousserait un petit peu. On a certaines aversions aux pertes. On traite également les probabilités avec bizarrerie. On survalorise les petites et on sous-valorise les grandes. Donc voilà toute une série. Alors est-ce que c'est irrationnel de faire ainsi? Peut-être pas, puisque c'est comme cela que notre cerveau fonctionne.
On marque une première pause, on se retrouve dans un instant sur cette question de l'irrationalité des marchés et des émotions des boursiers.
Comprendre, décrypter, s'informer sur la santé. Retrouvez chaque jeudi Santé News, la minute des experts santé sur BFM. Santé News, c'est l'actualité de la santé traduite par des experts. Santé News, en partenariat avec AstraZeneca.
Monsieur le directeur, c'est incroyable. Nous avons eu un visiteur sur notre site web.
Enfin, après des mois de présence sur Internet, il était temps.
Il est surtout temps de faire appel au relais internet.com pour multiplier vos contacts.
À partir de 69 euros hors taxes par mois, nos spécialistes se chargent du référencement de votre site sur les principaux moteurs et annuaires de recherche.
Le relais internet.com favorise la croissance de votre entreprise.
Jusqu'au 31 octobre, profitez de 200 euros hors taxes de réduction. Conditions sur www.lerelaisinternet.com.
BFM, la radio de l'écho.
Le point bourse avec Interexpansion, groupe Ionis, pour la gestion de l'épargne salariale.
Il est 11h15 en direct des marchés avec Guillaume Sommerer.
Le rebond continue, le CAC 40 prend 0,9% actuellement, 5723 points, idem sur les autres places européennes. Le FTSE à Londres gagne 1%, le DAX à Francfort 0,8%. Dans l'actualité des entreprises, Rexel, le spécialiste du matériel électrique basse tension, il va lancer une OPA finalement pas trop onéreuse sur le néerlandais Hagmeyer. Rexel a en effet trouvé un terrain d'entente avec l'autre candidat français, Sonépar. Les deux groupes, au lieu de se concurrencer, vont se partager les actifs d'Hagmeyer. Selon le schéma prévu, Rexel va lancer une OPA sur 100% du capital, OPA de 3 milliards d'euros, puis il cédera à Sonépar certains actifs. EDF également à la une, l'électricien poursuit son recentrage sur l'Europe. Il annonce la cession de ses actifs au Mexique, à l'espagnol Gas Natural, une cession pour 1,5 milliard de dollars. Je vous rappelle le CAC, plus 0,9%. Le pétrole encore en hausse, 86,28 $ il y a quelques minutes pour le baril de Brent. Il se replie depuis un tout petit peu. Et puis l'euro au-dessus du dollar 42, toujours la devise européenne actuellement, 1,4274 $ dans l'attente d'une nouvelle baisse des taux aux États-Unis.
Tous les quarts d'heure, un point sur les marchés boursiers, uniquement sur BFM Radio.
Les marchés sont-ils bons? Sont-ils compréhensibles? Sont-ils prévisibles? Les individus sont-ils rationnels? C'est la question du jour. Si vous voulez réagir, www.radiobfm.com.
Pour booster votre carrière avec un diplôme prestigieux et international, ne manquez pas le World MBA Tour avec BFM. Le World MBA Tour, la tournée officielle des business schools, fait étape à Paris, samedi de 14h à 18h à l'hôtel Concorde Lafayette. Venez découvrir les meilleures formations en management du marché sur le World MBA Tour. Plus de 100 MBA vous attendent. Inscrivez-vous sur www.topmba.com. Le World MBA Tour, samedi de 14h à 18h à Paris, hôtel Concorde Lafayette avec BFM.
Salut, c'est Marc. Laissez-moi un message. Surtout si vous savez quel est le réglage à faire pour désactiver le chipset graphique du BIOS de mon PC. Oui, moi j'ai pensé au port AGP, mais est-ce qu'il faut aussi désactiver le chipset vidéo? Merci, à bientôt.
Sinon, chez votre marchand de journaux, il y a Microhebdo pour 1,80 € seulement. Microhebdo, tous les jeudis, simplifiez-vous la vie. Cette semaine dans Microhebdo, le grand test des webcams pour chatter en vidéo et se filmer.
Les grands débats. Nicolas Dose sur BFM.
Didier Sornette est professeur d'économie à Zurich. Il dit « Surinterpréter le court terme est une question de survie. Le cerveau humain peine à accumuler la masse d'informations nécessaires à la compréhension d'un système complexe. » Et Dieu sait si aujourd'hui, la bourse est quand même devenue de plus en plus compliquée, notamment avec cette crise des crédits subprime et cette impossible traçabilité aujourd'hui, finalement, du circuit du crédit. Alors, on parle de l'irrationalité des marchés ou de la rationalité, d'ailleurs, avec Tammy Kabbage, qui est économiste, qui publie « La psychologie des grands traders » L'art du trading qui sort aux éditions Organisation. Olivier Gauchot, sociologue, qui est chargé de recherche au CNRS, qui publie Working Rich, ça sort en ce moment, à la découverte, et puis Christian Schmitt, professeur d'économie à l'université de Dauphine. Alors, ces traders, Tammy Cabbage, qu'est-ce qui fait qu'il prend des positions? Est-ce que justement, il va aller à l'inverse des positions prises par les autres? Est-ce qu'il va se dire, tout le monde fait ça? Il faut le jouer, il faut jouer le truc parce que tout le monde y va. On a le sentiment qu'il y a un peu les deux excès. Soit on fait tout le contraire parce qu'on se dit on va jouer une partition différente, soit on est pris par un phénomène moutonnier cohérent et très humain.
Juste pour revenir sur les propos de Christian
Schmitt, bien sûr, allez-y.
De tout à l'heure. Donc effectivement, il faut savoir que l'objectif des réformes qui ont été menées ces dernières années, ça a été d'accroître l'efficience des marchés, c'est-à-dire faire en sorte que les investisseurs soient totalement rationnels, c'est-à-dire qu'ils aient à leur disposition la plupart des informations.
Il y a trop d'informations. Comment vous voulez digérer?
Tout à fait. Voilà. Mais on a accru la liquidité des marchés, on a également accru la transparence de l'information, obligé les entreprises à publier.
Oui.
Traquer tout ce qu'on appelle les délits d'initiés, etc., accru également la liquidité des marchés, donc la dématérialisation, l'électronique, l'informatique, donc tout ça a permis effectivement d'accroître l'efficience. Or,
on part du principe qu'on a tout pour bien faire.
Normalement, voilà. Les marchés devraient être efficients. Or, on s'aperçoit qu'il y a des décalages fréquents par rapport à la valeur fondamentale. On s'aperçoit également de la survenance de bulles spéculatives, également de panique, de phénomènes de panique. Et la finance comportementale a bien documenté cela en effectuant de nombreuses expériences en montrant que les traders, mais également les investisseurs, étaient finalement soumis à des biais psychologiques, des biais émotionnels liés à leurs émotions, mais également des biais cognitifs liés à leurs connaissances. Et donc, ces individus n'étaient jamais totalement rationnels. Contrairement à la croyance
dominante... C'est presque rassurant.
C'est presque rassurant, mais en même temps...
J'ai mal au ventre aujourd'hui, j'aurais peut-être plus de mal qu'hier.
Il y a de l'humain sur les marchés et les traders sont avant tout des personnes donc liées à leurs émotions. Donc, les traders ne sont pas nécessairement ces bêtes à sang froid, c'est-à-dire des personnes extrêmement rationnelles. Ils sont dominés par leurs émotions. Et d'ailleurs, dans mon premier ouvrage « Psychologie des grands traders », j'explique qu'il s'agit de corriger ces biais psychologiques et qu'il y a un travail et que naturellement, nous ne sommes pas conditionnés pour réussir sur les marchés. Naturellement, nous sommes dominés par ces biais psychologiques et naturellement, nous ne pouvons pas réussir. Alors ensuite, effectivement, la théorie des conventions dont j'ai parlé précédemment explique qu'il existe des phénomènes rationnels, c'est-à-dire des phénomènes de suivisme, des phénomènes moutonniers qui, eux, sont rationnels puisqu'il y a un comportement stratégique de la part des opérateurs. L'objectif, donc, comme l'expliquait Keynes avec son concours de beauté, est de savoir, de comprendre ce que font les autres et de ne pas se positionner contre la tendance dominante. Donc, il y a de l'humain, l'irrationnel domine sur les marchés et on ne peut pas effectivement, même malgré les réformes structurelles, considérer que les marchés sont tout le temps efficients. J'y reviendrai plus tard, mais effectivement, je considère qu'il existe plusieurs phases sur les marchés, des phases où les investisseurs sont rationnels, sont des phases qui généralement succèdent à ces bulles spéculatives. Les investisseurs deviennent prudents, sélectionnent soigneusement leurs actions et des phases où l'exubérance domine et où l'on a des phénomènes de mimétisme totalement, je dirais, irrationnels.
Christian Schmitt, allez-y.
Oui, alors je voudrais dire un petit mot sur les finances comportementales qui ont été évoquées. Justement, quand on est devenu un peu sceptique sur l'efficience des marchés, on a mis en place des analyses partant du comportement de l'observation du comportement des opérateurs. Et on s'est effectivement aperçu que ceci permettait de faire de meilleures prévisions sur les marchés. Dans certains cas, et un certain nombre de banques ont choisi les modèles comportementaux. Alors, il y a un facteur qui n'a pas été mentionné ici, qui est important, c'est que c'est un marché qui est très rapide. Le temps de réaction du cerveau est très court. Et en même temps, comme vous l'avez suggéré, on a de plus en plus d'informations. Alors, le paquet d'informations plus important et le temps de réaction réduit implique effectivement à nos cerveaux d'avoir ce qu'on appelle des heuristiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le calcul que la théorie économique recommande. On a des procédés de repères psychologiques, mais qui sont des procédés de raisonnement. Et sur ces procédés de repères, il y a souvent un certain nombre de biais. Alors, c'est assez facile parce que quand les biais sont un peu les mêmes, on peut justement faire des prévisions en partant des biais attendus des opérateurs. C'est comme ça que la finance comportementale s'est développée. Alors, une remarque tout de même, c'est que notre cerveau est tout de même très bien fait.
C'est vrai.
Parce que des travaux récents ont montré que même sans connaître le modèle de Markowitz, je m'excuse pour vos auditeurs, qui est un modèle de référence de gestion de portefeuille classique.
Je ne pourrais pas vous le décrire.
Nos cerveaux, intuitivement, font quelque chose qui ressemble au modèle de Markowitz. Je veux dire, de manière automatique, et ils ont fait le calcul amusant. Il y a des gens qui raisonnaient un peu comme le modèle de Markowitz, et en fait, on leur demandait, vous pouvez le faire? Non, ils ne le connaissaient pas, et ils n'étaient pas capables, rationnellement ou consciemment, de le faire.
Oui. Olivier Godchaud, finalement, c'est presque rassurant de se dire que l'investisseur, c'est un homme sensible aussi. À côté de ça, on est en droit de se... On parlait de l'efficience des marchés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'investisseur, celui qui donne l'ordre de bourse, il est le premier pouvoir sur le marché, la première force, ou alors le maillon faible, finalement?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est l'importance prise par les activités financières. C'est devenu une industrie. Et donc les traders, les vendeurs, les analystes financiers, les ingénieurs financiers sont devenus des acteurs majeurs des évolutions des marchés financiers.
Donc place prioritaire quand même sur le fonctionnement
du système. Donc ils ont une place très très importante. Cela dit, il ne faut pas se représenter les traders comme des super petits porteurs.
Non.
Le trader, vous demandez à 80% des traders, leur première préoccupation, c'est pas de savoir si le CAC 40 la semaine prochaine va être à 5009 ou à 5005. Hein. Il y a une division du travail qui est extrêmement poussée dans la banque, et ils ont chacun leur petit domaine sur lequel ils doivent mener des activités. Et ces activités sont en grande partie des activités d'intermédiation, c'est-à-dire ils fabriquent des produits compliqués, des options, à partir de produits simples, et ils essayent de vendre le produit compliqué plus cher qui ne coûte à la fabrication. Donc ça, c'est une grande partie de l'activité. Une autre partie, ça va être de vendre des produits. Les vendeurs le font en essayant d'inciter des entreprises, des gérants de fonds à faire des transactions pour gagner du courtage. Donc, il ne faut pas avoir une représentation des marchés comme quoi ce serait une espèce de gigantesque population de traders qui serait en train de se poser la question de qu'est-ce que la population dans son ensemble est en train de prévoir. Ils sont chacun sur leur petit domaine, et sur leur petit domaine, ils vont chacun utiliser des méthodes très différentes, quoi.
Ouais.
Et donc, ces méthodes différentes, elles dépendent beaucoup de la place dans l'organisation du travail et de l'histoire personnelle de ces traders, de leur socialisation, leur éducation, leur manière de raisonner, leur manière de faire. Parce, et ces méthodes, on en parlera peut-être. Par exemple, il y a des gens qui sont plutôt pour utiliser l'économie, les prévisions économiques, d'autres qui vont être plutôt pour utiliser les mathématiques financières, d'autres pour utiliser ce qu'on appelle les chartes, à tracer des droites dans les cours. Et ces prévisions sont en lutte de compétition dans la salle de marché pour acquérir la primauté.
Alors, un mot, Christian Schmitt, parce qu'on a fini normalement le
cours. Heureusement qu'elles sont différentes. Car imaginons que tout le monde utilise la même méthode, alors on aurait des effets cumulatifs catastrophiques. Et souvent, les difficultés ont été liées lorsque, justement, ils utilisaient les mêmes méthodes.
Absolument. Merci, messieurs. On marque une dernière pause. Une avant-dernière pause. On se retrouve dans quelques instants.
Sur radiobfm.com,
écoutez ou réécoutez
toutes les émissions de BFM, la radio de l'écho.
Mais de qui se fout-on? De qui se fout-on?
Non, il faut bien le dire, nous avons un talent exceptionnel, nous autres Français, c'est de faire compliqué quand on peut faire simple.
Comme toute mesure économique, et on a raison de le dire, il y a un pour, un contre, un effet positif, un effet négatif.
Téléchargez gratuitement tout BFM sur radiobfm.com, rubrique podcast.
Oui, si, écoutez, franchement, moi, je sais pas pour me défiler, je n'y étais pas. Si c'est le cas, c'est complètement stupide, parce que aujourd'hui, on ne peut plus faire de censure.
RadioBFM.com, écoutez et réécoutez BFM en toute liberté, quand vous voulez, où vous voulez.
BFM, la radio de l'écho.
Il est 11h27 en direct des marchés avec Guillaume Sobrer.
Et il progresse, le CAC 40 plus 0,9%, 5723 points. Les marchés européens espèrent, comme Wall Street, une intervention d'urgence de la Fed. Elle pourrait annoncer plus tôt que prévu une nouvelle baisse des taux. La rumeur court après les pertes publiées hier par Merrill Lynch et les mauvais chiffres de l'immobilier américain pour septembre. Et cet après-midi sont attendues les commandes de biens durables, les ventes de logements neufs ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté valeur, France Télécom signe toujours la plus forte hausse, plus 6%. 12% actuellement à 25,20€. Le groupe a relevé ses objectifs de marge 2007. Il attend une accélération de ses activités au Royaume-Uni ou encore en Espagne. Rexel, le spécialiste du matériel électrique basse tension, bondit, plus 8,9% à 14,60€. Il va lancer une OPA finalement pas trop onéreuse sur le néerlandais Hagmeier. Carbone Lorraine également progresse. Les marchés apprécient le maintien de ses prévisions pour l'année et le chiffre d'affaires en progression d'un peu plus de 12% déjà au troisième trimestre. Conséquence, Carbone Lorraine prend 3,7% à 57,30€. En baisse, L'Oréal, moins 3,2 à 88,60€. UBS a abaissé son conseil d'achat à neutre. Par ailleurs, le premier groupe de cosmétiques mondial publie des ventes tout juste conformes aux attentes sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 8,5%. Et si l'or international dans la grisaille aussi, la Société Générale a abaissé son conseil à conserver. Résultat, le titre perd 0,4% à 44,50€. Je vous rappelle le CAC, plus 0,9€, et le baril de Brent à 86,28€ il y a environ une heure, depuis ce repli actuellement à 86$.
Pour connaître les cours et les valeurs en temps réel, 3667, le numéro boursier de BFM Radio. 34 centimes la minute.
Il est bientôt 11h30, l'essentiel de l'information, David Doba.
Les incendies qui dévastent la Californie ont fait 3 morts et 40 blessés, des flammes contre lesquelles les pompiers continuent de lutter, qui ont d'ores et déjà fait plus d'un milliard de dégâts, $1 milliard. George Bush, qui est attendu sur place aujourd'hui, a déclaré hier la région en état de catastrophe majeure. Après 18 mois de retard, le premier exemplaire de l'A380 a bouclé ce matin son premier vol commercial, un vol reliant Singapour à Sydney. Le géant des airs s'est posé à 9h35, précisément après 7 heures de vol, 455 personnes étaient à bord. Et justement, on reste dans le domaine, le trafic est perturbé aujourd'hui à Orly et Roissy en raison d'une grève des hôtesses et stewards d'Air France sur les salaires. A noter que certains aéroports de province sont également touchés. Les syndicats évoquent un suivi historique du mouvement. Le juge d'instruction Renaud Van Rumbeck compare aujourd'hui devant la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Ce dernier est chargé de déterminer si le magistrat a dérapé ou non dans le cadre de l'affaire Clearstream. Et puis on termine avec du football et un match nul hier soir pour Marseille. Les Olympiens qui n'ont pu faire mieux qu'un partout face au FC Porto, mais qui gardent tout de même l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une victoire qui intervient juste après celle contre Lens dimanche en championnat.
BFM, il est 11h30. On passe à l'économie, David.
Reprise des travaux du Grenelle de l'environnement aujourd'hui. Dernière journée de mise au point avant les arbitrages de l'Elysée. Parmi les sujets abordés ce matin, les OGM, la part du bio dans l'agriculture ou bien encore la réduction des pesticides. À ce propos, les participants se sont engagés à réduire de 50% en 10 ans la fréquence des traitements dans l'agriculture. De leur côté, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se lancer sur ce créneau vert, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Elles sont généralement bien accueillies par les marchés, peut-être un peu trop selon François Mallet, directeur du département recherche et analyste chez Lambinski Klepper.
Aujourd'hui, je crois qu'effectivement les valorisations sont trop élevées. En tous les cas, c'est notre jugement sur les principales valeurs que peuvent être Veolia, Vernet ou EDF Énergie Nouvelle. Aujourd'hui, ces sociétés sont des sociétés qui investissent très fortement. On le sait, on a vu une explosion des investissements sur ces énergies nouvelles. Il y a certainement un mouvement de consolidation qui va avoir lieu, ne serait-ce que parce que certaines d'entre elles ne vont pas pouvoir continuer à investir aussi fortement. Donc, elles vont être amenées à se regrouper. Par ailleurs, il y a de gros intervenants qui ont déjà dit leur intérêt pour investir, notamment dans l'éolien. On a vu que Suez avait manifesté son intérêt éventuel pour investir dans l'éolien. On pense que EDF Énergie Nouvelle va continuer à investir dans l'éolien. Donc on voit qu'il y a déjà plusieurs grands groupes, et même au niveau européen, qui ont un intérêt pour le secteur.
François Mallet, responsable du département recherche et analyse chez Lambinski Klepper. Il était ce matin invité de Stéphane Soumier dans Good Morning Business. C'est dans quelques minutes maintenant qu'Arnaud Lagardère doit être auditionné par la commission des finances de l'Assemblée nationale. À cette occasion, il devrait réaffirmer qu'il a tenu informé à des conditions de vente d'une partie de ses actions ADS sur laquelle pèsent des soupçons de délit d'initié. Le président du groupe du même nom a été mis en cause lundi par les petits actionnaires de ADS lors de l'Assemblée générale du groupe européen. L'Assemblée nationale qui a par ailleurs adopté ce matin, dans le cadre de l'examen du projet du budget 2008 de la Sécurité sociale, un amendement interdisant aux parlementaires fonctionnaires de cotiser à leur régime de retraite d'origine. Rexel annonce son intention de lancer une offre titre de 3 milliards d'euros sur le néerlandais Eggmeyer avant de la partager avec Sonepar. Concrètement, le leader mondial de la distribution de matériel électrique offre 4,60€ par action. C'est une prime de 47% par rapport au cours moyen d'Eggmeyer. Le groupe néerlandais a réalisé en 2006 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. France Télécom annonce de son côté avoir placé sous séquestre 755 millions d'euros suite à la décision de la Cour de justice européenne de Luxembourg. Je rappelle que l'opérateur historique doit rembourser au moins 800 millions d'euros d'aide de l'État français. Par ailleurs, l'action France Télécom qui reste également bien orientée ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs saluent un chiffre d'affaires meilleur que prévu qui permet donc au groupe de relever ses prévisions et d'atteindre un plus haut depuis août 2005. Merci d'écouter BFM, la radio de l'écho, 11h33.
Toutes les demi-heures, un journal de l'économie uniquement sur BFM.
Et vous retrouvez pour une demi-heure encore la suite et la fin des grands débats avec Nicolas Dose et ses invités.
BFM, les grands débats, Nicolas Dose.
Les grands débats, donc aujourd'hui, on parle de l'irrationalité des marchés, des émotions des boursiers. Les sentiments et l'optimisme aveugle sont les ingrédients indispensables à la création d'une bulle financière. S'ajoute à ça l'oubli du risque, explique le professeur d'économie à Zurich, Didier Sornet. J'en parle aujourd'hui avec Tammy Cabage, qui est économiste, qui est ancien trader et qui publie L'art du trading aux éditions Organisation. C'est publié en 2007 et c'est préfacé par Jean-Paul Paulin, qui est en ligne avec nous. Jean-Paul Paulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie et de finance à l'Université d'Orléans. Vous êtes membre du Cercle des économistes. Avec nous également Olivier Godchaud, sociologue chargé de recherche au CNRS qui publie Working Rich à la découverte, c'est cette année également, et Christian Schmitt, professeur d'économie à l'Université Dauphine. Alors, depuis l'ouverture de ce débat, Jean-Paul Paulin, j'ai évoqué ces phénomènes assez étonnants quand même. On a un Dow Jones qui se porte bien, alors que les signes de crise, notamment de l'immobilier et la fluidité des crédits devraient a priori inquiéter les boursiers. Ça ne semble pas être le cas. On a un CAC 40 qui monte, alors qu'on a une économie française un petit peu paralytique, avec un dollar qui baisse. On a évoqué le rôle des traders. Quel est celui des investisseurs institutionnels ?
Écoutez, oui, je voudrais juste intervenir sur cette question. Comment se fait-il que les gestionnaires de fonds n'améliorent pas, au fond, la rationalité des marchés ? Comment se fait-il que, finalement, alors que leur job est précisément d'être rationnel, et s'ils ne le sont pas, normalement, le marché doit les sanctionner et les faire sortir, comment se fait-il qu'ils n'ont pas une action stabilisante sur les prix ? Alors, j'y vois deux raisons. La première, c'est une raison qui tient à la relation d'agence qui existe entre l'investisseur final et le gestionnaire de fonds. Hein, en principe, l'investisseur final, que ce soit un individu d'ailleurs ou que ce soit un investisseur institutionnel, je veux dire par exemple un fonds de pension, un fonds d'assurance, cet investisseur final, il ne connaît pas les compétences du gestionnaire, il n'est pas capable de le contrôler dans le détail, il ne sait pas s'il prend plus ou moins de risques qu'il ne le souhaiterait. Et par conséquent, évidemment, il va essayer de le contrôler. Il va essayer de le contrôler avec ses moyens, c'est-à-dire en essayant autant que faire se peut de contrôler sa performance. Alors, ça va avoir plusieurs conséquences. D'abord, ça va contraindre l'horizon du gestionnaire. Or, vous voyez, on arbitre bien que sur des horizons longs. En principe, une opération d'arbitrage, c'est quelque chose qui s'étend dans le temps, plus ou moins. Mais enfin, quand vous faites du long short, par exemple, bah, vous arbitrez un titre que vous estimez sous-évalué contre un titre que vous pensez être au contraire surévalué, et avant qu'on revienne à l'équilibre, il va se passer du temps. Et par conséquent, pour faire un arbitrage profitable, il faut du temps. Or, le temps, il n'est pas nécessairement donné au gestionnaire parce que précisément, l'investisseur final, lui, cherche à vérifier si la performance du gestionnaire en question est bonne. Par ailleurs, le gestionnaire peut avoir tendance à se comporter de façon mimétique. Lorsque